Ensemble d'un seul cœur, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ce matin, nous avions rencontré Jésus qui était à Béthanie avec Lazare et ses deux sœurs, et nous avons vu ce geste de l'onction, du don de soi de Marie de Béthanie qui nous invitait à accueillir le geste de notre propre donation comme ministre du Christ appelé à déployer la charité pastorale en commentant le corps des Écritures, en annonçant la parole, en répandant la charité par les sacrements et en vivant de la charité dans le service de la communauté, le gouvernement de la communauté. Et le texte se terminait, vous en souvenez peut-être, par le fait suivant, c'est que une grande foule de Juifs venait rencontrer Jésus, Lazare. Non seulement Jésus, mais Lazare aussi, parce qu'il avait été relevé d'entre les morts. Et c'est là que les grands prêtres, dès lors, décidèrent de faire mourir aussi Lazare, puisque c'était à cause de lui qu'un grand nombre de Juifs les quittaient et croyaient en Jésus. Lors de notre premier entretien, lundi matin, sur Saint Jean au chapitre 1er, je vous avais dit que tout le discernement autour de la personne du Christ tourne autour d'un texte qui est fondamental dans la sagesse juive pour discerner celui qui est de Dieu, qui vient de Dieu, et celui qui est un usurpateur, et que ce texte, c'est un texte du livre des Nombres. Et qu'en particulier, ce qui permet de reconnaître celui qui vient de Dieu, c'est que Dieu agira en sa faveur et fera quelque chose d'inouï. Ce que les grands prêtres et les chefs des pharisiens ont parfaitement compris, c'est que la résurrection de Lazare est le signe inouï que Dieu a fait en faveur du Christ. Le signe qui montre que le Christ est vraiment l'envoyé de Dieu, qu'il a vraiment l'autorité du Père, est le fait qu'il ait pu ressusciter un mort. Et l'Évangile nous précise même au chapitre 11, non seulement un mort, mais un mort de plus de 4 jours. Pourquoi un mort de plus de 4 jours? On nous précise d'ailleurs, il sent déjà. Parce que dans la tradition juive, après 3 jours, la personne vit son jugement personnel et entre dans son état définitif. C'est d'ailleurs la même chose dans notre théologie catholique. C'est pour ça qu'on prie les morts pendant 3 jours, en particulier traditionnel, avant le jugement particulier, en attendant le jugement général à la fin des temps. Et donc, cela veut dire que ressusciter un mort de plus de 4 jours, c'est avoir autorité non seulement sur la terre, mais au ciel. C'est pourquoi l'expérience qu'a vécue Lazare et qu'il a pu raconter a sûrement dû être assez étonnante. Donc vous voyez, les pharisiens, les grands prêtres ont parfaitement compris ce que Jésus vient de faire. Il a manifesté son autorité sur la terre et sur le ciel lui-même. Il peut sortir un mort de son état définitif, du Shéol. Et c'est la raison pour laquelle il faut vraiment le supprimer. Et en plus, il faut supprimer la pièce à conviction. Et la pièce à conviction, c'est Lazare. C'est pourquoi on décide de tuer aussi Lazare. C'est alors que s'achève, après toute une réflexion sur la gloire et la croix, qui est amenée pour les dernières heures de Jésus avant son dernier repas qu'il va prendre, c'est la fin du chapitre 12 avec l'épilogue du chapitre 12, qui clôt ce qui est en fait la première partie de l'évangile selon saint Jean. Vous savez que les synoptiques sont des diptyques en deux parties, et les synoptiques ont toujours comme passage de la première à la deuxième partie la question qui sera celle de Jésus à Césarée de Philippe: pour vous, qui suis-je? C'est l'identité de Jésus qui est au cœur. L'évangile selon saint Jean, vous le savez bien, est construit différemment. Il y a un premier livre qu'on appelle le livre des signes qui s'achève avec le chapitre 12 et qui nous donne un épilogue sur les conditions de la foi véritable. Jésus a parlé et il a fait tous les signes pour que ceux qui veuillent croire puissent croire. Et en croyant en lui, croire en celui qui l'a envoyé. À partir du chapitre 13, dans lequel nous allons rentrer dans un instant, nous entrons dans la deuxième partie, le livre de la croix, le livre de la gloire, c'est-à-dire la passion du Christ. Sachant qu'il y a un petit problème technique, vous le savez bien, entre les synoptiques et saint Jean, c'est qu'est-ce que Jésus va vivre lors de son dernier repas. Est-ce le repas pascal ou n'est-ce pas le repas pascal? Pour les synoptiques, Jésus vit la Pâque, le repas du soir qui prépare, qui est l'entrée dans la fête de Pâques. Pas pour saint Jean. Saint Jean qui nous donne une autre chronologie. Et pourquoi trouve-t-on cette différence? Parce que saint Jean nous donne certainement les éléments les plus justes historiquement. Comme d'habitude, on le sait maintenant. La fête de la Pâque avait lieu le vendredi de Nisan, un vendredi de Nisan calculé sur le calendrier lunaire, comme vous le savez. Et donc, on célébrait la veille le repas de la Pâque. Mais il se passe quelque chose de très important que saint Jean nous met en filigrane et qu'on rencontrera demain matin. C'est que durant le temps présumé du ministère de Jésus, dans les années, on va dire, 27-28 à 30-35, quelque chose de particulier se passe dans le calendrier, c'est que la fête de la Pâque, à trois reprises sur 10 ans, ce qui est tout à fait exceptionnel statistiquement, la fête de la Pâque tombe le jour du Shabbat. Il y a donc, puisque la fête est mobile, elle tombe le même jour. Et donc à partir du moment où la fête de Pâques tombe le jour du sabbat, toute la liturgie du temple est modifiée. C'est ce que nous allons voir en saint Jean, qui est le seul à donner ces éléments-là, mais qui nous donne, d'après la plupart des experts aujourd'hui, les éléments historiques les plus justes, les plus fiables. Ce qui veut dire que le jeudi, Jésus n'a vécu qu'un simple repas. Puis le lendemain, vendredi, il est arrêté le soir du jeudi, dans la nuit de jeudi à vendredi. Il va passer toute la nuit du jeudi à vendredi à être interrogé. Le vendredi matin, il passe chez Ponce Pilate. Il est condamné à mort. Il meurt le vendredi. Et la fête de la Pâque ne commence que là. Et elle a lieu le samedi. Et c'est ce que nous allons trouver chez saint Jean. Je donne cette indication, j'y reviendrai quand j'aurai à vous le donner demain matin, en particulier dans les chapitres 18 et 19. Mais pour vous dire, le repas que nous allons avoir maintenant, pour Jean, n'est pas un repas pascal. C'est un repas amical, c'est le dernier repas avec les disciples, mais ce n'est pas la Pâque. D'ailleurs, il nous le dit d'emblée, chapitre 13, verset 1, avant la fête de la Pâque. On n'y est pas encore. Jésus, sachant que son heure était venue, l'heure de passer de ce monde au Père, lui qui avait aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. Au cours d'un repas, alors que déjà le diable avait jeté au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, la pensée de le livrer, sachant que le Père a remis toutes choses entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il va vers Dieu, Jésus se lève de table, dépose son manteau et prend un linge dont il se ceint. Il verse ensuite de l'eau dans un bassin, commence à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Il arrive ainsi à Simon-Pierre qui lui dit « Toi, Seigneur, me laver les pieds ?» Jésus lui répond « Ce que je fais, tu ne peux le savoir à présent, mais par la suite, tu comprendras. » Pierre lui dit « Me laver les pieds à moi, jamais. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, tu ne pourras avoir part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Alors, Seigneur, non pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit « Celui qui s'est baigné n'a nul besoin d'être lavé, car il est entièrement pur, et vous, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait en effet qui allait le livrer, et c'est pourquoi il dit « Vous n'êtes pas tous purs. » Lorsqu'il eut achevé de leur laver les pieds, Jésus prit son manteau, se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez le Maître et le Seigneur, et vous dites bien « Car je le suis. » Dès lors, si je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car c'est un exemple que je vous ai donné. Ce que j'ai fait pour vous, faites-le vous aussi. En vérité, je vous le dis, un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Sachant cela, vous serez heureux si du moins vous le mettez en pratique. » Nous allons, si vous voulez bien, nous arrêter sur ce texte en trois temps. Le premier, c'est le lavement des pieds, le geste, le signe de l'amour fraternel. Puis, dans un second temps, nous nous arrêterons justement sur l'amour fraternel, ce que j'appelle pour ma part le banc d'essai de la vie chrétienne. Le banc d'essai de la vie chrétienne. Quand on veut tester un moteur, on le met sur un banc d'essai. Voilà. On le teste. Le test de la vie chrétienne, c'est la vie fraternelle. Et puis dans un troisième temps, nous verrons ce qui peut blesser la vie fraternelle. Je donnerai quelques points d'attention, si vous le voulez bien. D'abord, ce geste de Jésus. Nous sommes avant la Pâque. Donc l'évangéliste nous prévient, ce n'est pas la Pâque, on n'y est pas, ça n'a pas commencé. Et les apôtres sont réunis, les disciples sont réunis avec Jésus. Et ce que l'évangéliste nous met immédiatement en lumière, c'est la pleine conscience de ce que Jésus est en train de faire. Cette christologie johannique qui l'a parfois fait accuser de monophysisme, hein, parce que c'est un Jésus tellement divin qu'on se demande s'il est encore homme, parfois, disent certains, alors qu'en fait, il rappelle justement, pensez avec la Samaritaine au bord du puits, il nous manifeste bien aussi l'humanité de Jésus, un Jésus fatigué, fatigué de la marche. Mais c'est vrai que Saint Jean insiste beaucoup, l'évangile selon Saint Jean, insiste sur la connaissance que Jésus a de ce qu'il est en train de vivre. Et c'est important cette connaissance. Pourquoi ? Si Jésus ne sait pas ce qu'il fait, il ne le fait pas. C'est-à-dire que s'il ne sait pas qu'il nous sauve, il ne nous sauve pas. C'est de la christologie de base. Et donc l'évangéliste nous signifie bien, profondément, que Jésus a pleinement conscience de ce qu'il est en train de faire. Jésus n'est pas une sorte de prophète juif un peu perdu qui se cogne contre les événements. Il est quelqu'un qui, en Saint Jean, domine pleinement ce qu'il est en train de faire et le fait consciemment. Il sait qu'il va donner sa vie. Je me souviens d'avoir fait une retraite il y a quelques années. J'étais supérieur de séminaire à Châteauneuf-de-Galaure avec Christophe Schönborn, archevêque de Vienne, un des auteurs du catéchisme de l'Église catholique. Et on avait abordé cette question. J'étais allé le voir, j'avais parlé avec lui. Il voulait voir personne, on était 140, il faut dire, un peu plus nombreux que nous ne sommes là. Il voulait voir personne, et puis à un moment donné, on se croise dans le couloir, puis comme on était polis tous les deux, on s'est salués. Alors, il était plus poli que moi encore, il s'est arrêté, il me dit, vous êtes de quel endroit, vous êtes curé où? Alors j'ai dit, je ne suis pas curé, j'ai dit, je suis supérieur de séminaire. Il me dit, oh, ça m'intéresse, venez. Voilà. Donc ça m'a valu qu'il évoque avec moi justement sur ce sujet-là un article qu'il avait fait dans Esprit et Vie sur la conscience du Christ et sur la nécessité de la pleine conscience du Christ de nous sauver, sinon il ne nous sauve pas. Ce qui n'est pas assumé n'est pas sauvé. Donc Jésus, sachant, il sait que son heure est venue. Depuis le début de sa mission, il parle de cette heure, il va vers cette heure. L'heure de passer de ce monde au Père. Lui qui avait aimé les siens qui sont dans le monde, on le voit bien pourquoi il va vers cette heure. C'est au nom de l'amour qu'il porte aux siens. Il va les aimer jusqu'à l'extrême. Et la formule, vous le savez, est tellement forte qu'on la trouve dans l'anaphore orientale qui a servi à, en particulier, à élaborer la quatrième prière eucharistique. Donc, l'évangile, d'emblée, nous met tout le contexte, la scène. C'est un repas, Jésus sait pertinemment ce qu'il va faire. Et on nous dit que, lors de ce repas, arrive un personnage étrange, le diable, qui avait jeté au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, la pensée de le livrer. Donc il y a un élément nouveau qui arrive, c'est qu'il y a l'un des disciples qui a un projet. Jésus sait ce qu'il va faire, et d'emblée on nous dit, voilà, on sait ce qui va se passer, quelqu'un va trahir. Ce qui n'empêche pas Jésus de continuer à faire toute chose de manière consciente, sachant que le Père a remis toute chose entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il va vers Dieu. Jésus se lève de table, dépose son manteau, prend un linge dont il se ceint. Voilà. Le geste du lavement des pieds est un geste parfaitement conscient du Christ, qu'il sait qu'il retourne vers le Père. Il va nous donner ce signe qui est comme son testament spirituel. À ses plus proches, il livre ce signe sur lequel vous prêchez tous les jeudis saints, comme prêtre, bien évidemment. Et c'est donc Jésus qui donne lui-même sens à ce qu'il fait. Il aime jusqu'à l'extrême. Signe de la charité. Que va-t-il faire concrètement ? Il va déposer son manteau, le linge. Il va prendre un linge dont il va se ceindre. Tout ça, il le fait consciemment. Ma vie, il le dira en Jean 10, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. J'ai le pouvoir de la donner et le pouvoir de la reprendre. C'est l'autorité du Christ. Jésus enlève son manteau qui est pourtant le signe de l'autorité, comme vous le savez. Mais Jésus va se dépouiller. Comme il avait manifesté d'une certaine manière la kénose en Jean 8 avec la femme adultère en s'abaissant, ici il se dépouille. Lui qui était de condition divine, il s'est abaissé, il s'est dépouillé. Il va enlever son manteau, il va le remettre, tout comme il va donner sa vie et il va la recevoir à nouveau au matin de Pâques. Et que va-t-il faire alors ? Il va laver les pieds de ses disciples. On a vu un lavement des pieds ce matin. Et je vous ai dit que le lavement des pieds dans le monde sémitique, dans le monde juif, est un geste réservé aux esclaves. Mais même pas à tous les esclaves. C'était aussi dans le monde juif, c'est la culture juive, le geste que faisait la femme pour laver les pieds de son mari quand il rentrait. Un déplacement. Mais, donc, un midrash de Exode 21:2 nous dit que l'esclave juif n'était pas obligé de laver les pieds de son maître, parce que le geste était considéré comme trop humiliant. En même temps, ce geste, c'est un geste important dans la tradition sémitique. Puisque le lavement des pieds rappelle d'abord le chapitre 18 de la Genèse, lorsque Abraham reçoit la visite de Dieu, sous la forme de trois personnages. Abraham lave les pieds. Et un midrash signale que ce lavement des pieds par Abraham, c'est Abraham qui se réjouit de la promesse qui lui avait été faite, qui est en train de s'accomplir. Donc le lavement des pieds est aussi lié aux promesses. Mais le lavement des pieds rappelle aussi un épisode de l'Exode au chapitre 30, un commentaire juif, un midrash du lavement des pieds des fils d'Aaron. Parce que justement, les fils d'Aaron vont être punis en entrant dans le temple sans se laver les pieds. Donc on entre dans le temple, on rencontre Dieu dans le temple en se lavant les pieds d'abord. Et c'est dire que le lavement des pieds a une certaine allusion aussi au fait que Jésus, on le sait depuis le chapitre 2 en Saint Jean, est le temple nouveau. Pour rentrer dans le temple, il faut se laver les pieds. Pour rentrer dans la communion avec Jésus, qui est le nouveau temple, détruisez ce temple, moi, 3 jours, je le rebâtirai, il faut se laver les pieds. Et puis, on voit aussi des allusions dans le fait que Jésus s'est saint les reins, qui, vous le savez, est aussi l'attitude du départ de l'Exode. La consommation de l'agneau pascal, la Pâque, la première Pâque. Et donc, ça veut dire que ce lavement des pieds récapitule en lui déjà toute une partie de la tradition d'Israël. Mais malgré tout cela, bien évidemment, dès que Jésus arrive à Simon-Pierre, celui-ci lui répond « Toi, Seigneur, me laver les pieds ?» Jamais. Et Jésus lui répond, comme il dira d'ailleurs à Jean-Baptiste, quand il demande à Jean-Baptiste de le baptiser, « Ce que tu fais, tu ne peux le savoir à présent, mais par la suite, tu comprendras. » Pierre lui dit « Me laver les pieds à moi ?» Jamais. Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, tu ne pourras avoir part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Alors, Seigneur, non pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Cet échange, pour nous qui lisons ça 2000 ans après les événements, nous paraît tout simplement cohérent. Pierre a sa conception de ce que doit être le Messie, de ce qu'est le Messie, et on comprend qu'il ne peut pas entrer dans la proposition que lui fait le Messie de lui laver les pieds, puisque c'est un geste d'esclave. Il y a une forme de résistance chez Pierre, qu'on voit aussi par exemple dans la confession de Césarée en Matthieu 16. Une fois que Pierre a fait sa profession de foi, tu es Pierre, sur cette pierre, et immédiatement, quand Jésus annonce pour la première fois la passion, vous savez bien que Pierre va lui dire « c'est pas du tout comme ça que ça doit se passer. Voilà. Passe derrière moi, Satan. » Pierre est un homme généreux, mais il a du mal à entrer dans la volonté. Il a du mal à consentir à la volonté de Dieu. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond qui nous est dit ici, et cette scène ne se comprend vraiment qu'à la lumière du judaïsme. Parce que Jésus, dans cet échange avec Pierre, lui dit quelque chose de très particulier. Si je ne te lave pas, tu ne pourras avoir part avec moi. Avoir part, c'est une expression qui est utilisée concernant la question de l'héritage, avoir part à l'héritage. Or, l'héritage pour un juif pieux, particulièrement dans la tradition pharisienne, est manifesté par le juif pieux, par quoi ? Par un certain nombre d'objets liturgiques qu'il porte sur lui, qui rappellent l'héritage, en particulier ce qu'on appelle les téphilim, c'est lanière de cuir, et puis aussi, bien évidemment, les téphilim avec cette boîte en cuir que vous voyez, si vous avez vu des juifs pieux prier par exemple au mur du temple, hein, dans lequel on met des passages de la Torah, voilà, et ces téphilim qui sont sur la tête et sur les mains pour rappeler à Dieu que l'on est son héritage et demander sa protection. Pour entrer dans l'héritage, on signifie à Dieu qu'on est son héritage. Ça fait partie de l'alliance. Or, qu'est-ce que nous voyons ici ? Jésus dit à Pierre, je vais te laver. Non, tu ne me laveras pas. Si je ne te lave pas, tu ne peux pas avoir part l'héritage. Qu'est-ce que répond Pierre ? Alors lave-moi les mains et la tête. C'est-à-dire les lieux des téphilim. C'est ça ce que répond Pierre. Lave-moi rituellement, les ablutions rituelles. Hein, vous avez vu quand les juifs passent à table, les mains, la tête. Si tu ne te laisses pas laver, tu ne peux pas avoir part à l'héritage. Donc, Seigneur, lave-moi comme on doit le faire rituellement. Et en même temps, Jésus continue en lui disant, celui qui s'est baigné n'a nul besoin d'être lavé. Pourquoi ? C'est une allusion à quoi ? Au fait que certainement, avant de commencer le repas, ces hommes sont passés, comme dans toute la ritualité juive, par un pédiluve, le mikvé, où ils se sont lavés les pieds. Ils se sont déjà lavés les pieds rituellement. Ils n'ont pas besoin de se baigner, tu n'as pas besoin de te baigner, puisque tu l'as déjà fait. Vous voyez que l'ensemble de cet échange, il prépare le lavement des pieds, est tout un échange à la lumière de la ritualité juive du repas. Vous trouvez tous les morceaux de cette ritualité. Celui qui s'est baigné le mikvé n'a pas besoin d'être lavé car il est entièrement pur. Vous, vous êtes purs, mais non pas tous. Il savait en effet qui allait le livrer et c'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Ah oui, parce qu'il y en a un qui n'est pas pur, évidemment, c'est Judas. Que va-t-il alors se passer ? Jésus va laver les pieds des disciples et on revient au texte avec la fin du lavement des pieds où Jésus reprend son manteau, se remet à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ?» En fait, Jésus va donner lui-même le sens du geste. Le sens du geste qui est une communion avec lui, avoir part à l'héritage avec lui, vivre de lui, et vivre en particulier de ce qui fait le cœur de la vie du Christ, c'est-à-dire le don de lui-même. Et de don de lui-même, dans cette charité du Christ, à laquelle nous participons, comme baptisés, mais particulièrement nous, prêtres, par le biais de la charité pastorale que j'ai évoquée ce matin. Donc Jésus rappelle ici à ses disciples l'exemplarité de son geste. Jésus s'est fait le serviteur, il s'est même fait l'esclave de ses disciples en leur lavant les pieds. Et il est en train de leur signifier donc, et de manière solennelle, en vérité, je vous le dis, un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'a envoyé, pour leur signifier que le signe de reconnaissance fondamentale des disciples, c'est cette charité entre eux. C'est au fait, il le dira durant le repas, hein, c'est au fait que vous vous aimerez les uns les autres que l'on verra que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. C'est Jean 13, 35. Et vous savez que saint Irénée commentera ce geste en disant que certainement les disciples étaient assis à la romaine, hein, c'est-à-dire allongés, et que Jésus a fait le tour du groupe en lavant les pieds, et qu'à part ce signe, il manifeste aussi l'unité et la communion dans la charité, par ce geste. Donc tout à la fois, c'est le geste du Christ qui se fait le serviteur, l'esclave. Il est celui qui manifeste la charité qui sera le signe définitif des disciples. Ce ne sont pas nos croix pectorales, nos cols romains, nos affaires, en faux. Mais le fond de ce que nous avons à vivre, c'est la charité. Et cette charité qui est unifiante. Cette charité qui fait la communion. deuxième temps alors, sachant cela, vous serez heureux si du moins vous le mettez en pratique. Jésus annonce, entre parenthèses, une béatitude. Vous serez heureux si vous le mettez en pratique. Cela nous conduit alors à un deuxième temps, vivre l'amour fraternel, le banc d'essai de la vie chrétienne. Parce qu'en fait, ce que nous dit Jésus nous fait entrer dans une triple responsabilité. Nous avons la responsabilité de vivre la charité fraternelle, de vivre la charité, la responsabilité devant Dieu d'abord, la responsabilité vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis de nos frères. Nous sommes d'abord responsables devant Dieu lui-même. Parce que, je vais passer vite, parce que vous êtes des prêtres et vous savez bien évidemment tout ce que je vais vous dire, et bien évidemment parce que Jésus, tout au long de son ministère, va nous révéler le mystère intime de Dieu. Le Dieu unique de la première alliance est celui en qui il y a des relations. Jésus va d'abord nous révéler la relation avec celui qu'il appelle Abba, son Père. Mais il va nous révéler aussi la relation particulière qu'il a avec l'Esprit Saint. Il est celui qui a reçu l'onction, le Messie d'Israël. Et donc progressivement, Jésus révèle dans tout l'Évangile ce qui va être la matière de la réflexion ecclésiale et de la stabilisation doctrinale des conciles de Nicée, Constantinople, sur la réalité trinitaire. La Trinité sainte, dont l'unité est une unité dans la charité, Deus caritas est. Dieu est charité. Et ce Dieu qui est charité et son mystère, l'Église est appelée à le refléter dans le monde. C'est la raison pour laquelle nous ne nous arrêterons pas sur ce texte. Quand je fais des retraites un peu plus longues, ça permet de faire d'autres passages. Nous ne verrons pas, nous traverserons le chapitre 17, mais la grande prière sacerdotale de Jésus. Prière sacerdotale parce qu'elle est en trois temps, comme les trois espaces du temple. Prière sacerdotale où Jésus priera particulièrement pour lui-même, puis pour les douze, puis pour ceux qui croiront en lui, et en disant en particulier, Père, que tous soient un afin que le monde croie. C'est-à-dire que nous sommes responsables de la charité fraternelle, nous sommes responsables de la communion dans la charité de l'Église. Pourquoi ? Parce que c'est la condition essentielle de la fécondité de la mission. Que tous soient un afin que le monde croie. Nous savons bien que ce qui empêche la fécondité de la mission, c'est la division. Vous savez comment est né le Conseil œcuménique des Églises, hein, je pense. Le Conseil œcuménique des Églises est né parce que dans les années 1880-85, Les missions chrétiennes commencent à débarquer dans l'actuelle Corée, sur les plages de l'actuelle Corée. Alors il y a des baptistes, il y a des anglicans, il y a des luthériens, il y a des presbytériens, il y a des catholiques, il y a des orthodoxes aussi. Ils débarquent tous en quelques mois et ils viennent annoncer l'évangile. Et les Coréens à qui on ne la fait pas, au bout d'un moment, vont aller voir les différentes missions en disant « Écoutez, nous on est prêts à croire à votre Jésus, évidemment je simplifie ». Mais il ferait d'abord bien que vous mettiez d'accord ensemble, avant. On ne sait pas qui choisir. Et ça donnera la première rencontre à Édimbourg, entre particulièrement Église de la Réforme et Anglicane, pour réfléchir sur la question de l'unité des chrétiens. On ne peut pas annoncer l'Évangile quand on est divisé. Alors, ça n'empêche pas la mission de se faire, mais elle ne se fait pas avec la même fécondité. Et donc, l'unité des chrétiens, ce n'est pas un enjoliveur en option, si vous me permettez l'expression. Un peu trivial. C'est la volonté du Christ. C'est pas des, ce ne sont pas des obsessions pontificales. C'est la volonté du Christ. Que tous soient un afin que le monde croit. Ensuite, la question est de savoir quelle unité doit-on vivre. Ça, c'est vrai. J'étais, si vous vous souvenez, il y a quelques années, c'était en 2017-2018, il y avait les 500 ans de la Réformation, il y avait eu la rencontre de Lund où était allé le pape François, et en écho en France, nous avions fait une rencontre à Strasbourg, il se trouve que j'y étais, j'avais été un des deux prédicateurs pour le jour du Seigneur et pour tout ce qui avait eu lieu autour de cette affaire-là, puisque j'étais président de l'unité des chrétiens à l'époque, et je me souviens que nous avions eu ensuite une conférence à la cathédrale de Strasbourg. Je m'en souviens d'ailleurs cruellement, parce que je pense que j'ai jamais eu autant froid de ma vie dans une cathédrale. Le 6 décembre, il n'y avait pas de chauffage, c'était épouvantable. Voilà, une conséquence du péché originel. Et c'est le cardinal Koch qui avait fait une conférence assez remarquable. Et je me souviens, j'avais le président de la Fédération protestante de France à côté de moi, et le cardinal Koch a fait à un moment donné une pointe assez acérée en disant « Nous avons commencé le chemin de l'œcuménisme en ayant la même conception de l'unité ». Aujourd'hui, force est obligée de dire que nous n'avons plus la même conception de l'unité. J'ai senti que ça bougeait à côté de moi. Hein, ça. Ce qui est vrai. Ce qui est une conception protestante de l'unité, il y a une conception catholique de l'unité. Pas la même. Si on avait du temps, on prendrait du temps pour ça. Mais... En tout cas, la crédibilité de la mission est liée à l'union et à la communion. Et donc, ça suppose de vivre cette charité. Cette charité qui, rappelons-le, est le don de l'Esprit. Romains 5, 5, la charité a été versée dans nos cœurs. Cette charité, cet amour de charité qui est un amour, je vous le rappelle, qui est dans la volonté d'abord. Tant mieux si nous avons des grandes émotions affectives en vivant la charité, mais elle est d'abord dans la volonté. J'aime quand je veux aimer. Elle passe par des actes, cette charité. C'est ce que disait le pape Benoît XVI dans Deus Caritas Est, quand il dit il y a un paradoxe et que le monde a du mal à comprendre aujourd'hui. Mais quand on dit finalement, dans la sagesse populaire, l'amour ne se commande pas. Vous avez tous entendu ça. L'amour ne se commande pas. Il y a des atomes crochus entre certains, entre certaines personnes, ça marche, entre d'autres, ça ne marche pas. Ça match, on dit aujourd'hui, hein, pour avoir l'air intelligent, voilà. Donc, voilà, il y a des gens avec lesquels ça fonctionne, il y a des gens, alors, la tête vous revient, vous, ça va, vous me rappelez mon instituteur de CM1, ça ne va pas, enfin, voilà. Donc, mais la charité n'est pas d'abord une affaire affective. L'amour ne se commande pas. Oui, mais Jésus nous donne le commandement de l'amour. L'amour ne se commande pas, oui, mais Jésus nous donne le commandement de l'amour. L'amour affectif ne se commande pas. Tomber amoureux, ça ne se commande pas. Hein. Mais aimer, c'est autre chose. Et aimer, ça se commande. J'aime parce que je veux aimer. C'est François de Sales dans ses entretiens avec les visitandines. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Vous connaissez les recueils d'entretiens de François de Sales avec les visitandines. C'est absolument délicieux. C'est François de Sales qui, le soir, allait à la visitation, puis il échangeait avec les sœurs. Alors justement, il échange avec une sœur en route, pas devant la communauté, et qui lui dit « Mais j'ai du mal à aimer mes sœurs. Comment je dois faire ? Si je ne les aime pas et que je fais comme si je les aimais, est-ce que je ne suis pas hypocrite ?» Et François de Sales explique très bien. Ce n'est pas de l'hypocrisie. L'hypocrisie, ce serait de vouloir tromper l'autre en lui faisant croire qu'on l'aime. Mais alors, en l'occurrence, on ne veut pas la tromper, la personne. On veut vraiment l'aimer, mais on a du mal à y arriver parce qu'elle a un tempérament comme ci, parce qu'elle a une tête comme ça, qu'est-ce que vous voulez, ça, voilà. Et François de Sales lui explique qu'il y a le haut et le bas de l'âme, l'affectivité, qui, celle-là, comme dit, est difficilement maîtrisable. Hein. On a, comme je vous le disais hier, on n'a qu'un pouvoir diplomatique sur l'affectivité, ça se... on peut la gérer, on peut la tempérer, on peut peu à peu, mais il lui rappelle qu'il y a le haut de l'âme, la fine pointe de l'âme, comme on dit dans l'anthropologie salésienne, et qui est la volonté, qui nous permet de poser des actes d'amour, même si nous ne ressentons aucun amour pour la personne. Ça va ? C'est clair ? Ça résonne à peu près ou... Et c'est ce que disait Vincent de Paul aussi, je vous l'ai déjà cité, hein, quand Vincent de Paul dit que Jésus ne nous demande pas un amour affectif, mais un amour effectif, en acte. Vous avez la même histoire dans la vie de Thérèse de Lisieux. Vous savez qu'elle avait une sœur qu'elle ne supportait pas au Carmel, hein, et qu'elle essayait d'aimer. Donc chaque fois qu'elle la voyait, elle essayait de l'aimer, hein, vraiment, volontairement. Et que malheureusement, dans l'histoire d'une âme, qui est, vous le savez bien, un livre dans lequel il n'y a pas trois phrases de Thérèse, mais qui a été retravaillée par une de ses sœurs, hein, mais qui donne quand même l'esprit thérésien, eh bien, à un moment donné, cette histoire de cette sœur apparaît. Cette sœur a découvert des années après la mort de Thérèse, c'est pour ça qu'il ne faut pas publier trop vite vos mémoires, hein, mais elle a découvert à ce moment-là que Thérèse avait du mal à l'aimer, mais qu'elle l'aimait vraiment dans la volonté, et qu'elle avait pour elle un amour de charité, mais qu'elle avait du mal à avoir un amour affectif pour elle. Donc, notre responsabilité devant Dieu pour aimer. Deuxièmement, nous sommes responsables, toujours dans ma deuxième partie, nous sommes responsables personnellement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que nous sommes appelés à aimer notre prochain comme nous-mêmes ? C'est l'Écriture. Or, rappelez-vous, on le disait hier en parlant des blessures, dans les besoins fondamentaux que nous avons tous besoin d'aimer et d'être aimé. Et c'est Saint Jean Chrysostome qui nous dit, une formule très intéressante, Saint Jean Chrysostome écrit « Nul ne peut se blesser que lui-même. » Nul ne peut se blesser que lui-même. Hier, nous avons parlé des blessures que nous subissons dans la vie et qui nous sont une difficulté dans notre croissance spirituelle, notre maturation. Mais Saint Jean Chrysostome évoque ici quelque chose de très différent. Il évoque la manière dont nous nous blessons nous-mêmes. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire ? Nous avons tous besoin d'aimer et d'être aimés. Mais dans les relations avec les autres, dans la vie familiale, dans la vie fraternelle, dans la vie pastorale, cet amour n'est pas toujours facile. Parce qu'on rencontre des gens très différents, des gens qui ne vous aiment pas, ont du mal à vous apprécier pour des raisons diverses. Or, nous avons peu de capacité à changer les autres. Je pense que vous êtes au courant. J'aime bien quand je préparais au mariage, j'en ai pas préparé des dizaines, hein, mais j'étais vicaire. Quand j'avais un petit couple là, je leur demandais de me raconter leur histoire, comment ils s'étaient rencontrés, voilà. Puis, il y a toujours un moment où j'essayais un peu en disant « parlez-moi un peu de lui ou parlez-moi un peu d'elle ». Alors elles sont plus volubiles que eux, en général. Voilà. En général, elles disaient « bon, il a un petit défaut là, il a un petit... » Mais je vais le changer. À ce moment-là, je disais, écoutez, la prochaine fois, quand on se verra, vous viendrez un quart d'heure avant, mademoiselle, j'aimerais vous parler seul à seul. On ne change pas l'autre. C'est pas vrai. Par contre, on peut se changer soi-même. Et il arrive qu'en se changeant soi-même, on change les autres. Et bien, quand Saint Jean Chrysostome dit « Nul ne peut se blesser que lui-même », les gens que nous rencontrons dans notre mission, les événements que nous rencontrons, nous ne pouvons pas les changer. Mais la manière dont nous les regardons peut tout changer. Et donc, notre travail, parce que les événements et les personnes que nous rencontrons ne sont pas neutres, notre travail, c'est de travailler notre regard sur les choses. De regarder autrement pour changer le rapport à autrui ou aux événements eux-mêmes. Je donne un exemple très simple. L'histoire se passe au XIXe siècle dans un petit village des Dombes. un curé écrit à son évêque. L'histoire est authentique. Monseigneur, je vous demande de quitter cette paroisse, car rien ne distingue les habitants de ma paroisse des animaux, sinon le baptême. Ça fait du bien pour commencer comme ça. Le curé est un expert en Jeux olympiques de la spiritualité, puisque c'est un ancien chartreux. Il n'a pas tenu en chartreuse, il est devenu curé de paroisse. Il n'était peut-être pas fait pour ça. Mais enfin, voilà. En tout cas, on sent qu'il a du mal avec sa paroisse. Donc, l'évêque va le changer. Moi, je pense que j'aurais fait la même chose hein, avec une lettre comme ça. Voilà. Et quelques semaines après, arrive un nouveau desservant dans la paroisse. Et 30 ans plus tard, des milliers de personnes viennent dans ce petit village des Dons. Vous m'avez évidemment compris. Je n'ai pas besoin de mettre de sous-titres. Mais entre le départ du premier curé et l'arrivée de Jean-Marie Vianney, l'évêque n'a pas envoyé des bus pour enlever les paroissiens et en apporter de nouveaux. Qu'est-ce qui a changé ? C'est le regard du pasteur sur ceux qui lui étaient confiés. Nul ne peut se blesser que lui-même. Et vous voyez bien notre responsabilité dans l'ordre de la charité, de notre regard et du travail sur notre regard pour apprendre à aimer les personnes. Moi, je suis arrivé il y a 11 ans dans un diocèse très difficile et très compliqué. J'ai beaucoup prié Jésus en lui disant, Seigneur, voilà, moi je viens pauvrement. Et au bout d'un an et demi, deux mois, un soir, en rentrant dans mon évêché qui tenait avec du scotch et de la ficelle, je l'ai changé d'ailleurs. Je l'ai vendu, j'en ai fait un autre. Voilà. Je me suis dit, mais comment ça se fait que je sois aussi heureux et en paix ? Je ne vous raconte pas d'histoire. Hein. Je me suis dit, mais comment ça se fait ? Et je me suis dit, et je l'ai dit après à mes diocésains, je leur ai raconté parfois après, pour leur dire juste ça, vous voyez, Jésus ne se moque pas de nous. Jésus ne nous ment pas. Si nous essayons pauvrement de vivre de lui, il ne nous ment pas. Il est présent avec nous. Et il nous donne de voir les choses comme il veut qu'on les voit. Je crois. Et donc ça veut dire, vous voyez bien, qu'il faut que nous travaillions notre liberté intérieure. J'en ai parlé l'autre matin. Travailler notre liberté intérieure pour avoir ce regard libre sur les autres. En se disant, dans un regard théologal, ceux vers lesquels je vais, même si ça paraît apparemment difficile, c'est Jésus vraiment qui me les confie. Et au bout d'un moment, je crois qu'il nous donne la capacité de les aimer. Ça suppose de mettre en ordre deux, trois petits principes, personnellement, dans cette conversion intérieure, qui est souvent de l'ordre de la seconde conversion, comme on dit dans la vie spirituelle. D'abord, ça demande, si vous permettez, une petite formule que j'ai forgée peu à peu, pour ma part, c'est accepter une fois pour toutes de n'être que soi-même et en être heureux. Accepter une fois pour toutes, il faut faire un acte de foi. Accepter une fois pour toutes de n'être que soi-même et en être heureux. Parce que sinon le risque, vous le savez bien, et ça fait partie du combat spirituel, c'est de passer son temps à rêver d'être quelqu'un d'autre ou ailleurs ou autrement. On appelle la mystique du si. Si j'avais un autre évêque, si j'avais une autre nomination, si j'avais... Non, non. Accepter une fois pour toutes de consentir à ce qu'on est. Voilà. Je suis comme je suis. J'aurais aimé avoir 10 cm de plus, j'aurais aimé ce que vous voulez. Voilà. Je ne visais personne. Voilà. Donc, vous voyez, consentir à soi-même, consentir au réel. Deuxièmement, ça c'est le principe de réalité, à partir de ce qu'on est. Sinon on est toujours dans le rêve. Sinon on n'est jamais satisfait. Sinon on n'est jamais heureux. On est toujours ailleurs. Deuxièmement, mettre en œuvre le principe de croissance dans la vie spirituelle, c'est-à-dire penser qu'on peut progresser. Toujours. Moi, je vais vous raconter une petite histoire. Quand j'ai vécu ma conversion, mon retour à la foi, j'ai été contaminant pour quelques camarades autour de moi. Et nous nous sommes retrouvés à aller à la messe tous les matins à 7h15 avant d'aller en fac et au travail, prendre notre café du matin. On allait à la messe dans une paroisse de Mulhouse, d'ailleurs tenue aujourd'hui par les membres d'une communauté qui organise cette retraite. Voilà. C'est dit. Et il y avait là un prêtre qui devait avoir 80 ans à l'époque. Et au bout de 2-3 matins, il a dû trouver bizarre cette petite troupe qui venait à la messe. Et au moment où il me donne la communion, il me dit « Passez me voir à la sacristie. » Garde à vous, repos, moi je suis allé à la sacristie. Bon. Avec le petit groupe derrière moi, on était 3-4. Alors il était assez petit, alors il me regarde avec un air sévère comme ça, puis il me dit « Vous êtes séminariste ?» Je dis « Pas du tout. » Alors ils ont fait un peu un geste comme ça, en montrant que moi, semblerait-il, je pensais peut-être à quelque chose. Et puis ce prêtre, je suis rentré au séminaire, j'ai été envoyé à Rome, ce prêtre est devenu un ami. Il m'a fait découvrir tous les sanctuaires du sud, de l'Allemagne, de la Suisse. Cet homme était un homme extrêmement dur. Il cassait du vicaire, comme on disait, quand il avait été curé. Il cassait du vicaire. Très, très. Et j'ai trouvé ça magnifique parce que moi, j'ai été témoin, en quelques années, cet homme, peu à peu, on a beaucoup échangé sur la vie spirituelle, et j'ai vu comment cet homme mettait en œuvre ce en quoi il croyait, parce qu'il avait plus de temps, je pense, aussi, à la retraite. Parfois, j'arrivais pour le voir, il était en oraison devant le Saint-Sacrement. On s'est confessé mutuellement pendant des années. Et surtout, il y a eu un moment très beau, c'est qu'il m'a emmené 2 jours après mon... Parce qu'il m'a dit, je ne vous verrai pas prêtre. En fait, il était là le jour de mon ordination, il m'a remis ce qu'il fallait. Voilà. Et puis, nous sommes allés 3 jours plus tard célébrer à l'abbaye d'Einsiedeln en Allemagne, à la chapelle de la Vierge. Et après la messe, on est monté sur la colline, il y a une statue de Saint-Benoît. Et là, cet homme qui avait déjà 86 ans s'est mis à genoux devant moi, il m'a dit, confessez-moi. La deuxième personne que je confessais, j'emmenais par la hanche. Voilà. Et j'ai vu cet homme complètement se transformer. Je l'ai vu littéralement glisser progressivement en Dieu. Il est parti en EHPAD à 87-88 ans, il s'était cassé le col du fémur. Et je me souviens des infirmières qui me disaient, mais si tout le monde était comme ça, il ne se plaignait jamais de rien, il était toujours heureux. Je me souviens que quand je quittais sa chambre, il chantait les antiennes grégoriennes du séminaire. Enfin voilà. Voilà. Mais vous voyez, ça m'a persuadé que quand je vous dis principe de croissance, la sainteté, c'est jusqu'au bout. La sainteté, c'est vraiment jusqu'au bout. Ça peut être dans les dernières années d'une vie. Et puis principe de finalité. Parce qu'il y a la vie théologale et que nous sommes invités, je ne vais pas revenir dessus, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, s'il y a un principe d'abord de réalité, s'il y a un principe de croissance, il doit y avoir un principe de finalité. Ce que nous le vivons en vue de la vie éternelle. Troisièmement, nous sommes responsables d'autrui aussi. Et ça, c'est notre rapport aux autres. Et j'aimerais juste vous donner quelques principes avant de vous donner 3 petits points terminaux. La vie fraternelle entre nous, il y aurait beaucoup de choses à dire, bien évidemment. Mais ça passe d'abord, il me semble, par la capacité de savoir remercier Dieu pour les frères. Remercions Dieu pour nos frères. Pour les dons d'autrui. Sachons nous réjouir de l'autre et des autres. Vous savez, le problème, ça commence dès le début avec Cain et Abel. Hein. Ils sont à deux à offrir le sacrifice. Il y en a un qui monte devant Dieu, l'autre pas. Ah oui, il y en a un qui louche sur l'autre, qu'est-ce que vous voulez. Il y en a un qui offre son sacrifice avec un œil et il surveille l'autre avec l'autre œil. Ça ne peut pas marcher. On passe un peu notre temps à loucher. Dans l'Église. Non ? Quand on entend des confrères parler, voilà. On a du mal à dire parfois des choses positives. Malheureusement. On entend parfois, ça marche bien dans sa paroisse avec des jeunes. Oui, il marche bien, oui, mais bon, il visite jamais les malades. Hein, non. François de Sales disait tout va bien jusqu'au mai. François de Sales dit tout va bien jusqu'au mai. Mais. Donc savoir remercier, savoir se dépouiller de soi devant les autres, c'est-à-dire ne pas mettre la main sur l'autre, mais savoir aussi apprendre à se trouver dans une juste position par rapport à l'autre pour le laisser exister. Nous sommes prêtres et la plupart d'entre nous, on sait bien, nous avons des talents, des capacités, alors elles sont variées, mais un certain nombre ont des talents en tout cas de prise de parole, et on peut parfois oublier qu'on écrase un peu les autres. Dans la vie communautaire, dans la vie fraternelle, dans une vie de doyenné. Savoir se dépouiller du désir de toute puissance sur les autres. Savoir aussi avoir la conscience que l'autre, quel qu'il soit, peut nous apporter quelque chose. Parfois, ce qui va nous enrichir vient de ceux que l'on n'attendait pas. Apprenons vraiment à aimer tous nos confrères, même les plus désagréables apparemment, parce que quand on est désagréable, en général, c'est qu'on souffre. Donc, voilà. Comment aider ce frère ? Mais parfois, un frère qui est plus discret, qui est plus humble, qu'on ne voit pas beaucoup, c'est parfois de lui que viendra la parole juste. Savoir travailler son cœur pour se dire chacun peut m'apporter quelque chose et même se poser la question qu'est-ce que peut m'apporter ce frère ? Si on n'est pas attentif, peut-être on ne le verra pas. Il faut avoir le regard de Marie à Cana. Hein, voilà. Et puis, dans la vie fraternelle, il faut parfois se poser la question est-ce que je suis vraiment dans les dispositions pour souhaiter le meilleur pour l'autre ? Pour que l'autre passe devant. Ce sont des petites choses, mais ce sont des petites choses fondamentales dans le lien fraternel. Troisième et dernière partie, il me reste 2 minutes, mais je voudrais quand même vous donner ces... Qu'est-ce qui peut blesser la charité fraternelle, peut-être aujourd'hui, plus particulièrement ? D'abord, la première des choses, et elle est très liée à la mentalité consumériste aujourd'hui, c'est le besoin de petits plaisirs immédiats. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le plaisir, ça fait partie de la vie, on en a besoin. Il faut le vivre de manière vertueuse, même Benoît XVI nous le disait hier. Ça demande un sens de l'équilibre. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la mentalité consumériste nous rend très égocentrés, très égocentriques, avec la volonté de nous replier sur nos besoins de petits conforts, nos petits avantages, notre petit bien-être. Vous savez, c'est la tentation des agents pastoraux dans Evangelii Gaudium du pape François. Et cette manière de faire, en étant en repli sur soi, j'ai droit à mon confort, j'ai droit à mes temps à moi, oui, jusqu'à un certain point. Vérifions cet aspect-là, qui peut blesser. Quand quelqu'un est toujours un peu en repli, se protège, la vie fraternelle demande le risque de la rencontre. Ça coûte de s'ajuster, c'est pas simple. Deuxième chose qui peut blesser, c'est la question de la curiosité, qui aujourd'hui, dans une société de l'information, est devenue pathologique. Parce que comme nous avons besoin de plaisir, mais de manière vertueuse, le désir de savoir, de connaître, évidemment, est bon, de nouveau, s'il est vécu de manière vertueuse. La maladie actuelle, c'est le droit de savoir, de savoir tout sur tout le monde. Et vous savez le dégât que ça peut faire sur la réputation des personnes, sur les bruits qu'on fait circuler, les calomnies, les médisances, mais même tout simplement le bavardage. On sait bien que, du point de vue psychologique, le fait de raconter des choses sur l'autre vient du fait que ça nous produit une certaine jouissance, un certain pouvoir sur l'autre. Et en général, c'est lié à un vide intérieur. C'est quand la vie spirituelle n'est pas en place qu'on a besoin de beaucoup parler. Ça comble un vide. Donc, apprenons et réapprenons sans cesse à parler au bon endroit, à la bonne personne et au bon moment. Et c'est le futur Jean 23, quand il énonce en Turquie, en ses mémoires, il raconte, il dit combien de fois dans des rencontres à l'ambassade, dans un haut lieu, dans un échange un peu avec personne du bon monde, j'avais juste au bord des lèvres la petite phrase pour piquer la personne et pour attirer ma gloire, la gloire autour de moi. Et il dit combien de fois je me suis mordu les lèvres, plutôt avoir l'air d'être un peu sot que de blesser quelqu'un. Ça, c'est la sainteté, ça. C'est tellement facile de faire le malin. Et puis enfin, quelque chose qui peut blesser et qui aujourd'hui est devenu un sport national, c'est l'ironie. Comme le plaisir, comme la curiosité, l'humour est une bonne chose. Surtout vis-à-vis de soi-même, d'ailleurs. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un monde, dans une société qui a développé une forme d'humour très particulier qui est l'ironie, la moquerie, tourner en dérision, imiter les défauts, forme de méchanceté qui est en fait est liée à des formes de mécanismes de défense d'ailleurs. Quand ça se vit dans certains groupes, ça peut prendre même des formes pathologiques. Et surtout, ça fait perdre la liberté intérieure et la paix intérieure. Très intéressant de voir que les pères du désert liaient l'ironie qui existait déjà à leur époque à la chasteté. En tout cas, l'ironie est profondément anti-évangélique parce qu'elle est faite pour blesser et humilier. Voilà, je m'arrête là en vous priant de bien vouloir m'excuser d'avoir débordé. Je vieillis, ce que vous voulez, comme ça. On devient plus lent. Voilà, je vous invite à reprendre donc ces textes, si vous le voulez bien, à les intégrer, à les réfléchir pour vous. Et donc demain matin, nous aurons un horaire un peu particulier, comme vous le savez, puisque nous aurons les Laudes et le chemin de croix, et puis qu'ensuite je vous proposerai, alors bien évidemment je vous encourage à en faire la lecture déjà ce soir, je vous encourage peut-être à lire ce soir le dernier repas de Jésus, chapitre 14, 15, 16, prière sacerdotale comprise, 17, et puis peut-être demain matin au petit jour avant de commencer, en commençant votre journée, de lire les chapitres 18 et 19, puisque ce sont eux que je traverserai demain matin, je ne lirai pas un espace particulier, à une partie particulière, mais je traversais le texte pour en faire, si vous le voulez bien, une lecture. Voilà, et puis dans l'après-midi, nous aurons un texte sur la résurrection du Christ. Je vous donnerai encore des éléments, sachant que je vous prie encore de m'excuser de ne pas être là ce soir au Vêpres, parce que j'ai entre-temps eu un appel pour une connexion. Je vous prie de m'en excuser. Voilà, mes petites contraintes.
Alors, je vous rappelle ce que j'ai dit, donc à 18h30, il y aura cette heure sainte avec des confessions. J'ai proposé qu'effectivement, qu'il y ait 10 confesseurs disponibles, mais après, évidemment,